Studio Tamani, voici nos informations en français.
Des attaques simultanées dans le cercle de Bankass ont fait plusieurs dizaines de morts ce week-end. Des sources locales parlent d'au moins 100 morts. Dans d'autres localités aussi, des incidents sécuritaires sont signalés. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a 7 ans et malgré toutes les volontés et les initiatives prises, le bilan de sa mise en œuvre reste mitigé. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale du réfugié au Mali. Les données statistiques font état des 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de toute nationalité. C'était là les titres de ce journal, le développement dans quelques instants avec Adama Amadou Haïdara. 18h moyen et bonsoir et bienvenue à tous. L'insécurité prend de l'ampleur dans la région de Badiangara. Plus d'une centaine de morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan provisoire d'une série d'attaques perpétrées ce week-end dans les villages de Dialassagou, Djangweli et Dessagou dans le cercle de Bankass. Les sources locales, ces différentes localités, sont en train de se vider de leur population. Moussa Malé Sissoko.
Venus sur des motos, des hommes armés non identifiés ont attaqué les localités de Dialassagou, Djangweli et Dessagou dans la nuit du samedi au dimanche 19 juin 2022. Des sources locales, les assaillants se sont livrés à des massacres des populations civiles avant de mettre le feu aux habitations. Ils ont incendié les boutiques et greniers se trouvant sur leur passage, rapportent les mêmes sources. Selon des témoignages, plusieurs personnes, notamment le chef du village de Dialassagou, ont été enlevées par les assaillants. Ils ont également emporter une quantité importante des vivres, du bétail et des motos à Djangweli. Le bilan provisoire des victimes varie suivant les témoignages. Certains font état de 130 personnes tuées, d'autres en dénombrent plus, mais les autorités locales ne confirment pas ce chiffre. Les autorités de transition ainsi que les forces armées maliennes n'ont pas encore réagi. Des sources locales, l'armée malienne est déjà sur place et continue de ratisser la zone. Ces événements ont poussé plusieurs familles à fuir les lieux pour se réfugier dans des localités plus sûres.
Dans un communiqué qui vient d'être publié sur sa page Facebook, le gouvernement annonce un bilan de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina, un groupe terroriste dirigé par Amadou Koumfa. Selon le communiqué, plusieurs parmi les auteurs de ces massacres ont été formellement identifiés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur ces attaques et exactions. Il rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs devant la justice. Ces attaques terroristes s'expliquent par le changement de tactique des groupes armés terroristes qui recrutent maintenant au niveau local. Cette déclaration est de Babada Kono, spécialiste des questions sécuritaires. Il indique que les autorités maliennes devront, au-delà de la solution militaire, gérer les facteurs qui poussent les jeunes à alimenter les rangs des groupes terroristes. Babada Kono est joint ici par Moussa Malé Sissoko.
Ce qui rend particulièrement difficile la lutte contre cette menace-là dans sa forme actuelle, c'est l'endogénisation de la base combattante de ces groupes-là. C'est-à-dire, quand on prend, par exemple, le groupe comme la Katiba Massina, aujourd'hui, sa base combattante est locale. Ce n'est plus des combattants qui viennent d'autres pays, où ce sont très souvent des ressortissants de ces localités-là qui animent ces groupes-là. On a en face des acteurs qui connaissent mieux le terrain. La stratégie, c'est ce qu'on préconise depuis quelques années. Le tout militaire peut difficilement venir à bout de cette insécurité-là. Il faut d'autres types de réponses qui accompagnent les interventions. Donc il faut essayer de prendre en charge les griefs, les frustrations et les facteurs structurels sur lesquels procède l'insécurité et qui font que des gens adhèrent au discours produit par les groupes extrémistes musulmans.
Toujours dans le cadre sécuritaire, des incidents ont été signalés dans plusieurs localités du nord et centre du pays ces derniers jours. De Markala à Badiangara au centre du pays en passant par Tamalet et Inchinanan dans la région de Menaka, la violence est montée d'un cran. Ces incidents qui ont fait des morts ont également poussé plusieurs personnes à abandonner leur localité. Le point ici avec Maria Meiga.
Le camp des Dosso de Dana Amasagou à Gedoubomo dans la région de Badiangara a été attaqué ce lundi. Le bilan est d'un mort et des blessés côté Dana Amasagou. Dans le cercle de Ségou, des hommes armés non identifiés ont attaqué dimanche nuit le poste de contrôle de Markala. Ils sont arrivés sur 3 motos et ont incendié le poste avant de s'enfuir. 2 morts, dont un gendarme et un civil, 1 véhicule et 3 motos incendiées ont été enregistrés au cours de l'attaque. au nord du pays, un soldat de la MINUSMA a trouvé la mort dimanche suite à l'explosion d'une mine. Selon un communiqué de la MINUSMA, il faisait partie d'une patrouille de sécurité qui menait une opération de recherche et de détection de mines à Kidal. Toujours au nord du pays, un opérateur économique a été assassiné dans sa famille à 20 km de Menaka. Jeudi dernier, peu avant 19h, deux hommes armés sur une moto ont semé la panique dans la ville de Menaka. Ils ont tiré sur deux personnes assises devant leur porte. Ces événements interviennent au moment où la coalition forces armées maliennes avec les groupes armés Gacha et MSA est passée un avis pour interdire la circulation des motos armées dans la ville et l'acheminement du carburant vers certaines zones, entre autres.
Sur les réseaux sociaux, c'est possible de réagir à toutes ces informations à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Un des titres de ce journal, 7 ans après la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre reste difficile. Si les groupes armés dénoncent un manque de volonté du gouvernement, du côté de la transition, on se réjouit des avancées notoires, tout en reconnaissant que les défis restent énormes. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamed Niatara.
Cela fait 7 ans, ce 20 juin, que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé entre le gouvernement et les groupes armés. De sa signature à ce jour, les différentes parties reconnaissent que la mise en œuvre des documents est régulièrement confrontée à des obstacles. Dès sa prise de fonction, le chef du gouvernement a évoqué une mise en œuvre intelligente de cet accord ici du processus d'Alger. Du côté du gouvernement, on estime également que la mise en œuvre de l'accord de sa signature à nos jours a connu des avancées notoires, notamment sur le plan politique, sécuritaire, du développement, de la justice et de la réconciliation. Malgré ces satisfaits du gouvernement, un manque de confiance entre les parties signataires est visible. Une situation qui s'explique par les blocages à certains points du processus comme celui du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. À cela s'ajoute la tenue d'une réunion de haut niveau qui s'est fait attendre entre le gouvernement et les parties signataires depuis janvier dernier. Il est attendu de cette rencontre le démarrage de la réintégration socio-économique des catégories particulières des ex-combattants et des femmes associées aux groupes armés désignés dans les 5 régions du Nord. Aussi, cette réunion devrait aboutir à un consensus sur les réformes politiques et institutionnelles en suspens et lancer les 16 projets approuvés au titre du Fonds pour le développement durable.
L'adoption de la nouvelle loi électorale par le Conseil national de transition sonne comme un désaveu pour le gouvernement. C'est du moins ce que pense le parti Élément. Pour ses responsables, le nouveau projet de loi adopté par le CNT est mieux que celui porté par le gouvernement malgré ses insuffisances. De son côté, la Convention pour le Mali, un soutien de la transition, estime que les amendements apportés à ce projet de loi par le CNT impactent négativement les aspirations affichées par le peuple. Ali Sissé.
Pour Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Élément, l'adoption de la nouvelle loi électorale est un pas en avant pour le Mali. Selon lui, la loi adoptée par le CNT est mieux que celle portée par le gouvernement.
Ces amendements sont comme un désaveu pour le gouvernement. C'est quand même bien l'approche qui a été faite. Ce sont des amendements qui ne sont pas tous bons, mais pour nous, le projet de loi qui est issu des discussions au CNT sont mieux que ceux qui avaient été proposés par le gouvernement. Il faudrait que le président de la transition et le gouvernement restent fidèles à ces amendements-là.
De son côté, la Convention pour le Mali, un soutien de la transition, juge que l'adoption de cette loi est regrettable. Pour Oumar Diarra, membre du parti, les amendements apportés par le CNT ne sont pas ceux attendus par le peuple.
Le CNT a modifié des articles en faveur du ministère de la Charte territoriale, alors que c'est cette entité-là qui avait organisé des élections, qui avait causé des dégâts. On a redonné les pouvoirs au ministère de la Charte territoriale et aux représentants de l'État. On voulait que ça change, mais le CNT n'a pas abondé dans le sens de ce changement. C'est que nous regrettons un peu.
De son côté, le M5-RFP, les mouvements dont est issu le Premier ministre exhorte le président de la transition à ne pas promulguer cette loi. Il lui demande de renvoyer une seconde fois le projet initial du gouvernement devant le CNT. Pour rappel, ce texte initial du gouvernement a été validé par l'écrasante majorité des membres du CNT après 92 amendements.
100 millions de personnes sont en déplacement forcé dans le monde, parmi lesquels 25 millions sont des réfugiés. Le Mali compte plus de 370 000 déplacés internes et plus de 170 000 réfugiés dans les pays voisins, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Le pays accueille aujourd'hui 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de toutes nationalités. Ces fausses informations ont été données ce matin par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Plus de détails avec Lali Tangara. Pour les ACR, le thème retenu cette année pour célébrer cette journée, chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Appel à la solidarité avec toutes les personnes obligées de fuir leur localité à cause de l'insécurité. Mohamed Askia Touré, représentant du ACR au Mali.
Aujourd'hui, 20 juin, nous commémorons la journée mondiale des réfugiés. Avec beaucoup d'espoir pour saluer le courage et la ténacité des personnes contraintes de fuir à travers le monde leur pays à cause de l'insécurité générée par des conflits et des persécutions liées à leur origine, leur race.
À l'occasion de leur journée, les réfugiés ont adressé des doléances au gouvernement du Mali, notamment l'attribution des logements sociaux aux réfugiés. Patrice Vouama, président de l'Union des réfugiés du Mali.
Nous sollicitons pour les réfugiés du Mali une sécurité alimentaire. Surtout la prise en compte des réfugiés pendant le mois de solidarité et des autres actions et initiatives du gouvernement. Nous demandons également une sécurité d'habitation.
Cette cérémonie a été une occasion pour les réfugiés à montrer leur savoir-faire aux hôtes de l'événement. Ils ont animé des sketchs et diverses autres prestations sur leur situation. Aussi, deux Mauritaniens ont reçu la nationalité malienne.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 8h sur nos radios partenaires pour d'autres informations. Ça serait avec Assito Kanté. Bonsoir. La journée mondiale du réfugié a été célébrée ce matin sous le thème « Chacun, partout, tout le monde, toute personne a droit à la sécurité ». Et ce thème a été choisi cette année pour rendre hommage à toutes les personnes déplacées de force qui vivent dans la détresse. L'édition 2022 intervient dans un contexte où le Mali compte près de 370 000 déplacés internes et plus de 170 000 réfugiés dans des pays voisins. Mohamed Askia Touré, représentant du HCR au Mali, il répond ici aux questions de Khalifa Guita.
Aujourd'hui, nous atteignons des records absolus en termes de personnes déplacées de manière générale, que ce soit réfugiés, que ce soit déplacés internes. Cette année, le thème porte donc que la sécurité en fait, reste effectivement un des vecteurs majeurs d'atteinte aux violations des droits de l'homme. Il est important que la sécurité redevienne le centre de toute notre attention.
Quelle est aujourd'hui la situation des réfugiés au Mali?
Le Mali a toujours été une terre d'accueil, une terre d'hospitalité pour les réfugiés. Mais plus particulièrement, comme vous le savez, depuis une dizaine d'années, les crises autour du Mali, ça va le Burkina, le Niger, ont porté aussi un nombre important de réfugiés ici. La situation des réfugiés, malheureusement, ne fait qu'empirer du fait que l'insécurité partout dans le pays, l'endroit où se retrouvent les réfugiés, malheureusement, elles sont souvent amenées à se déplacer encore. Exemple, près de 20 000 voire 25 000 réfugiés qui avaient trouvé refuge dans la région d'Andarabukan, mais du fait du conflit entre les groupes islamistes et d'autres groupes armés, ces personnes se retrouvent encore dans un déplacement ultérieur. Donc, ils sont aujourd'hui à Menaka ou ailleurs.
Quels sont aujourd'hui leurs principaux besoins?
Très souvent, les réfugiés subissent plus ou moins les mêmes sorts que les déplacés internes au Mali. Donc, je dirais que les besoins tournent essentiellement autour de l'éducation, autour de la documentation, autour de l'abri, autour de l'alimentaire. Sur ces populations de réfugiés, plus de 60 voire 70% de ces populations est constituée de femmes et constituée d'enfants.
Quels sont vos problèmes majeurs?
Nous avons des ambitions très grandes. Ces ambitions qui sont souvent malheureusement atténuées, voire freinées par les manques de fonds. La communauté internationale a malheureusement aujourd'hui d'autres préoccupations, notamment la guerre en Ukraine, et de ce fait, les fonds se trouvent de plus en plus réduits.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris des mesures urgentes concernant les réfugiés de Menaka?
C'est la priorité du jour. Nous sommes en train de voir comment on peut acheminer de manière totalement urgente plus de 500 tentes qui vont partir de nos warehouses de Mopti pour aller dans la région de Menaka.
Aujourd'hui, des réfugiés se plaignent de plus en plus par rapport à la réduction des aides. Qu'est-ce qui explique cette situation?
L'absence de fonds qui fait que nous avons plus ou moins des réductions dans les activités qui sont données à leur endroit. Le deux, c'est l'aspect sécuritaire. Je veux dire qu'on n'a malheureusement pas accès à beaucoup d'endroits qui ne nous permettent pas de pouvoir accéder facilement à ces réfugiés-là. Bien, nous cherchons à diversifier nos sources d'approvisionnement de fonds pour pouvoir parer à cette situation-là.
Monsieur Touré, si vous avez un dernier mot, c'est lequel?
Les réfugiés, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs et tout le monde peut être réfugié. L'instabilité, les guerres, on ne les choisit pas. Donnons plus de cœur, donnons plus d'amour à toutes ces personnes qui sont à côté de nous. Nous avons droit à les aider, nous devons les aider.